Merci d'écouter RFI, bienvenue si vous nous rejoignez, il est minuit à Paris.
Mathis Limano.
Et à la une, l'émotion à Ramallah, en Cisjordanie occupée, après la libération de 200 prisonniers palestiniens. Ils étaient attendus par des milliers de personnes pour célébrer leur liberté retrouvée. Émotion également en Israël. Les 4 soldats sont entrés au pays. Effusion de joie sur la place des otages à Tel Aviv. Leur libération, vous allez l'entendre, a fait l'objet d'une mise en scène soigneusement orchestrée par le Hamas. Aux États-Unis, les arrestations et expulsions de migrants se poursuivent et leur sort préoccupe les ONG. Une fois renvoyés du côté mexicain de la frontière, ils sont la cible de violences. Amnesty International réagit dans ce journal. Et puis en fin d'édition, on revient sur la victoire de Madison Keys à l'Open d'Australie. Ils ont été accueillis par une foule en liesse à Ramallah, en Cisjordanie occupée. Une partie des 200 prisonniers palestiniens libérés ce samedi par Israël. D'autres ont été transportés jusqu'en Égypte. Des libérations qui s'inscrivent dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui entre dans son 8e jour. Plus tôt dans la journée, le mouvement islamiste a confié les 4 soldates israéliennes au service de la Croix-Rouge pour les conduire jusqu'en Israël. Une libération soigneusement mise en œuvre par le Hamas. Samia Boukhalifa.
La libération des soldats israéliennes a eu lieu à Gazaville, place de la Palestine. Le Hamas joue toujours sur les symboles pour envoyer des messages. C'est sa méthode et celui-ci est assez explicite. Une cérémonie et une mise en scène digne d'un film. Les soldats israéliennes ont été relâchés en uniforme militaire flambant neuf, contrairement aux précédentes otages libérés en habit civil. Sous la contrainte, elles sont apparues tout sourire et ont salué la foule. Le Hamas refuse de qualifier ses soldats d'otages et parle de prisonniers de guerre. En échange de leur libération, Israël relâche ce samedi 200 détenus palestiniens. Au 7e jour de ce cessez-le-feu, les forces d'occupation israéliennes doivent se retirer du centre de la bande de Gaza. En théorie, à partir de demain dimanche, les Gazaouis pourront se déplacer librement dans l'enclave entre le sud et le nord. Mais le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou annonce qu'il conditionne finalement ce retour des Gazaouis dans le nord à la libération d'Arbel Yehoud, une otage civile israélienne. Elle sera libérée samedi 1er février, lui répond le Hamas. Sami Bourfi, Jérusalem. RFI.
Et après la libération des 4 militaires israéliennes, Benjamin Netanyahou salue un moment très heureux. Elles sont toujours en observation dans un hôpital de Tel Aviv et dans un état stable, indiquent les médecins. 26 otages sur les 87 encore détenus à Gaza doivent être libérés lors de cette première phase de l'accord, en échange de 1600 prisonniers palestiniens encore détenus. Dans l'enclave, la guerre a effacé 60 ans de développement en seulement 15 mois de guerre, estime l'ONU. Environ 2/3 des constructions à Gaza ont été endommagées, voire réduites en poussière par les bombardements israéliens. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, les reconstructions pourraient coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars et durer jusqu'en 2040. L'armée libanaise accuse Israël de tergiverser dans son retrait du sud du pays. Retrait total prévu initialement ce dimanche, mais Israël a déjà prévenu. La date ne sera pas respectée. Selon l'État hébreu, l'armée libanaise n'a pas encore investi toutes les zones où elle est censé remplacer les forces du Hezbollah. Le 27 novembre dernier, le parti chiite signait le cessez-le-feu avec Israël, mettant un terme à 2 mois de guerre ouverte. Elle sera le bras armé de Donald Trump dans son programme d'expulsion massive de migrants. Le Sénat a approuvé la nomination de Christine Noem, 53 ans, à la tête de la sécurité intérieure. Le sort de ces migrants qui inquiètent les ONG, malmenés aux États-Unis, sont souvent la cible de violences et de disparitions forcées après leur expulsion de l'autre côté de la frontière. Edith Olivares, directrice d'Amnesty International Mexique.
Malheureusement, le Mexique n'est pas un territoire sûr, ni pour les personnes qui y vivent, ni pour les personnes qui y transitent. Celles-ci arrivent dans une situation de grande vulnérabilité en raison de leur statut de sans-papiers. Ils entrent dans le territoire mexicain en provenance d'Amérique centrale. Nous voyons de plus en plus de personnes originaires d'Haïti ou du Venezuela qui entrent sans-papiers. Ils sont introduits dans le pays par des passeurs appartenant au crime organisé. Dans de nombreux cas, ils sont forcés de travailler comme esclaves dans différentes activités, y compris dans le trafic de drogue. La plupart des personnes qui disparaissent dans ces circonstances ne sont pas rapidement identifiées. Si une mère se trouve dans un pays d'Amérique centrale et que son fils passe par le Mexique en route pour les États-Unis, elle peut apprendre sa disparition des mois ou des années plus tard. Lorsque l'on prend des décisions décisions comme celle que prend actuellement le président Trump, c'est la vie de milliers de personnes qui est directement menacée.
En este momento, el presidente Trump está afectando directamente la vida de miles de personas.
Edith Olivares, jointe par Melissa Barra. Au Mexique, 121 000 personnes sont considérées comme disparues et on dénombre 60 000 corps non identifiés. Les combats ont redoublé de violence ce samedi dans l'est de la RDC entre l'armée congolaise et ses alliés d'un côté et les rebelles du M23 et des militaires rwandais de l'autre. Le Rwanda, déterminé à s'emparer de la ville de Goma, accusation lancée par le porte-parole de l'armée congolaise qui assure que les FRDC repousseront l'ennemi. Kinshasa prend ses dispositions et rappelle ses diplomates présents à Kigali. La réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU prévue lundi a été avancée à ce dimanche. Minuit 6 à Paris, même heure à Tirana, en Albanie. La communauté de l'église orthodoxe du pays qui pleure la mort de son archevêque, Monseigneur Anastasios, est mort ce samedi à 95 ans dans un hôpital d'Athènes. Durant 30 ans, cette figure de la minorité grecque en Albanie a ressuscité l'église orthodoxe dans le pays, et ce après la chute de la dictature communiste au début des années 90, dictature qui avait interdit toutes les religions. En l'an 2000, son nom avait même été proposé pour le prix Nobel de la paix. RFI Athènes, Joël Brunner.
L'église orthodoxe de Tirana, la capitale albanaise, a été la première à exprimer par communiqué sa grande douleur à l'annonce du décès de son archevêque charismatique. De nationalité grecque, Monseigneur Anastasios était hospitalisé à Athènes depuis le début du mois en raison d'une infection virale. Dans son pays d'origine, la Grèce, où la religion orthodoxe est ultra dominante, les hommages politiques n'ont pas tardé à affluer. La présidente Katerina Sakellaropoulou a ainsi salué l'homme de paix, le promoteur du dialogue, de la fraternité et de la coexistence pacifique des peuples. À la fin des années 90, Monseigneur Anastasios s'illustre en effet par son implication dans le processus de réconciliation en Albanie après la guerre civile et la guerre du Kosovo. De son côté, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis évoque lui la contribution inestimable de ce pionnier de l'église orthodoxe en Albanie, pays à majorité musulmane. Sur une période de 30 ans, l'archevêque a ainsi contribué à faire renaître l'église de ses cendres après plusieurs décennies d'un régime autoritaire qui avait imposé à l'Albanie un athéisme d'État. Joël Brunner, Athènes, RFI.
Et c'est avec un large sourire qu'il est apparu sur l'écran géant du meeting de l'AFD devant quelques 4500 partisans. Elon Musk est venu soutenir par vidéo le parti d'extrême droite allemand à l'approche de législatives anticipées dans moins d'un mois et quelques jours après que le milliardaire ait été accusé d'avoir fait un salut nazi. Dans le même temps, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre l'extrême droite en Allemagne, appelant à faire barrage à l'AFD, donnée deuxième dans les sondages. Elle est la reine de l'édition 2025 de l'Open d'Australie. L'américaine Madison Keys a créé la sensation en dominant la numéro 1 mondiale et double tenante du titre, la biélorusse Arina Sabalenka. Un peu plus de 2 heures de match pour s'adjuger son tout premier grand chelem à 29 ans, Arthur Franc.
Madison, entrée dans la danse, l'américaine attendait ce moment depuis très longtemps. Après un dernier coup droit gagnant, elle a enlacé son clan et s'est assise pour savourer son exploit. Battue en finale de l'US Open 2017, Maddy n'a pas manqué son deuxième grand rendez-vous.
Je voulais cela depuis tellement de temps. Je n'étais pas sûre de pouvoir revivre un jour une finale de Grand Chelem. Je ne me pensais pas capable de me retrouver à nouveau en position de gagner un tel titre. Et mon équipe a cru en moi, alors merci beaucoup.
Relâchée et puissante, Keys n'a pas tremblé lorsque Sabalenka a égalisé à une manche partout. L'américaine a ponctué une quinzaine de rêves à Melbourne, épinglant 5 têtes de série, dont les 2 meilleures joueuses du monde. La native de Rock Island a prouvé qu'elle était l'une des meilleures frappeuses du circuit, après avoir longtemps slalomé entre les blessures et les désillusions. Coachée par son mari, Bjorn Fratangelo, Keys a trouvé la combinaison parfaite et retrouvera lundi son meilleur classement, 7e. Arthur Franc, Melbourne, RFI.
Une victoire qui permet à Madison Keys d'intégrer le top 10 de la WTA, le circuit international de tennis féminin. Chez les hommes, la finale opposera le numéro 1 mondial, l'italien Yannick Sinner, à son dauphin Alexander Zverev. Premier coup de raquette à 8h30, temps universel. Et puis le Paris Saint-Germain déchante en Ligue 1 après sa belle victoire en Ligue des Champions cette semaine. Tenu en échec ce samedi 1 partout par Reims, la rencontre a surtout été marquée par la première sous les couleurs parisiennes de Gvisha Kvaratskhelia, l'attaquant géorgien, auteur d'une passe décisive. L'affiche de ce dimanche en Ligue 1, c'est l'OGC Nice, 5e, qui reçoit le dauphin du PSG Marseille. RFI, il est presque minuit 10 à Paris, une heure de moins en temps universel.